Laure, tu vas tout de suite commencer à nous parler donc de la délocalisation
du tribunal de grande instance de Bobigny en zone d'attente de Roissy. On parlera ensuite de la situation à la frontière franco-italienne. Donc en fait, je disais tout à l'heure que ce sont deux actualités, mais sur des sujets qui ne sont pas nouveaux. Pour se concentrer sur la délocalisation, déjà, définir ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par délocalisation. En fait, c'est un truc qui est arrivé comme ça en 2003, grâce ou à cause de la loi Sarkozy, qui a prévu que, en fait, quand les personnes sont enfermées, soit en centre de rétention, donc en centre de rétention quand elles sont déjà sur le territoire français et considérées comme en situation irrégulière, ou quand elles sont enfermées en zone d'attente, donc ce sont des personnes à qui on a refusé l'entrée en France ou dans l'espace Schengen, qu'on enferme au niveau des ports, des gares et des aéroports qui desservent l'international, le temps de les renvoyer vers le pays de provenance. Donc quand les personnes sont enfermées en centre de rétention ou en zone d'attente, il est prévu que, alors à des délais différents, je ne vais pas revenir sur la procédure exacte, ça prendrait trop de temps, mais à des délais différents, dans les deux cas, les personnes sont présentées au juge des libertés de la détention, qui est donc un juge judiciaire, à qui on demande de prolonger soit la rétention en centre de rétention, soit le maintien en zone d'attente. Donc à qui on demande, c'est donc là l'administration qui demande au juge de prolonger le maintien. Pour la zone d'attente, cette présentation devant le juge des libertés de la détention intervient au bout du 4e jour et du 12e jour. Ce qu'il faut savoir, en fait, sur les zones d'attente et sur cette présentation devant le juge, c'est qu'en fait, on a eu déjà l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici, c'est qu'il n'y a aucun accès garanti à un contrôle juridictionnel. Ça veut dire qu'une personne qui est placée en zone d'attente peut être renvoyée avant même d'avoir pu voir le juge. Soit le juge des libertés de la détention, donc le JLD, qui, au-delà de se prononcer sur ou pas la prolongation du maintien en zone d'attente, va aussi examiner la situation de la personne, savoir s'il y a eu des problèmes dans la procédure de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, et surtout savoir s'il y a une atteinte aux droits et une atteinte aux libertés de la personne. Donc des sujets quand même importants. Et pourtant, tout est fait dans la loi et également dans la pratique pour éviter ce contrôle par le JLD. Rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que le JLD est considéré par l'administration comme un libérateur et qu'il faut, il faut limiter son pouvoir d'action et donc, en sauvegarde et en hommage, je dirais, à la séparation des pouvoirs, on a en 2011 la loi Besson qui vient dicter au juge. Donc, qui vient donc dicter à la justice de quelle manière elle pourra statuer sur ces demandes de prolongation. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'ANAFE, www.anafe.org, sur cet impact-là. Mais vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette volonté, en fait, d'écarter le contrôle du juge. Donc ça, c'est dans les textes, dans le CESEDA, donc le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais c'est aussi dans la pratique. Puisque, en pratique, une personne peut rester maximum en zone d'attente 20 jours. En moyenne, elle reste 4 jours à Roissy, qui est la plus grosse zone d'attente de France, 29 heures à Orly et moins de 24 heures dans les autres zones d'attente. Or, on a ce contrôle du juge des libertés de la détention qui intervient au bout du 4e jour et du 12e jour, donc 4e jour si on est encore en zone d'attente et 12e jour si on est encore en zone d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, la très grande majorité des personnes qui sont placées en zone d'attente ne passent jamais devant le JLD. Ça, c'est le premier point. Et rapidement, sur l'autre contrôle juridictionnel, c'est par le juge administratif. Si on décide de saisir le juge administratif en disant que la police aux frontières a eu tort de nous refuser l'entrée, que la décision était illégale. Là encore, la personne verra le juge si elle le saisit. Donc ça veut dire si elle écrit une requête en français, suffisamment motivés en fait et en droit, donc ce qui est absolument pas possible quand on est tout seul. Le gouvernement refuse de mettre en place une permanence gratuite d'avocats en zone d'attente et l'ANAFE, on fait de l'assistance, mais on voit à peu près 10% pardon, des personnes qui sont maintenues en zone d'attente, sachant qu'il y a à peu près 11 000 personnes qui sont placées en zone d'attente par an. Donc, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'en fait, c'est important pour placer ce contexte de contrôle juridictionnel en zone d'attente. C'est que donc, je le disais, tout est fait pour l'écarter. Actuellement, zone d'attente de Roissy, donc, est la plus grosse zone d'attente. Le 4e jour et le 12e jour, les personnes, quand elles doivent être présentées devant le JLD, elles sont emmenées par la police aux frontières de la zone d'attente de Roissy. Donc, la zone d'attente de Roissy qui s'appelle la ZAPI. La ZAPI qui veut dire zone d'attente pour personne en instance de quoi ? De départ. Et bien donc les personnes sont transférées de la ZAPI directement au TGI, donc tribunal de grande instance de Bobigny. Là, depuis 2003, et cette possibilité donc de délocaliser les audiences, donc on peut délocaliser soit les audiences judiciaires, soit les audiences administratives. En général, c'est les audiences judiciaires qui sont délocalisées. Il y a eu plusieurs exemples de délocalisation à proximité de centres de rétention qui ont d'ailleurs donné lieu à des fermetures suite à des arrêts de la Cour de cassation parce que un certain nombre de conditions n'étaient pas remplies. Bref, concernant la rétention, il y a quand même eu plusieurs tentatives et il y a plusieurs audiences délocalisées actuellement en marche. Pour Roissy, pour la zone d'attente de Roissy, il y a une tentative d'ouvrir, de délocaliser, en gros, qui date depuis 2003-2004. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est pas du tout une question nouvelle. Par contre, là où c'est une nouveauté, c'est que malheureusement, ça se concrétiserait a priori pour septembre. Donc très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone d'attente de Roissy, donc la ZAPI, c'est un bâtiment. Qui fait à peu près, qui est un bâtiment qui est collé en fait aux pistes de l'aérogare 2, dans la zone de fret, cerné de barbelés, et donc c'est rez-de-chaussée étage et une capacité de place pour accueillir 160 personnes, et donc appelé avec un doux euphémisme par la police aux frontières comme un hôtel. Non, ce n'est pas un hôtel, car un hôtel n'est pas un lieu de privation de liberté. Alors là, on est clairement dans un lieu de privation de liberté, quasiment carcéral. Il y a des caméras partout, la police et des barbelés. Les personnes ne peuvent pas en sortir. Elles ont juste accès la journée à un petit jardinet qui donne directement vue sur les pistes. Et donc, dans ce bâtiment, a directement été construit après la loi Sarko de 2003, dans les années qui ont suivi rapidement, a été construit une première salle d'audience directement au rez-de-chaussée de cette ZAPI, donc complètement à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de la zone d'attente. Levée de boucliers des associations droits de l'homme, des syndicats, notamment de magistrats, d'avocats et des juges eux-mêmes, avec un refus total d'aller rendre la justice, et donc là, pour le coup, rendre la justice, je le mets avec plein de guillemets, d'aller rendre la justice dans lieu qui est la zone d'attente de Roissy. Donc il y a une belle salle d'audience avec des bureaux qui restent donc inutilisé. On ne parle plus du projet jusqu'en 2011. 2011, c'était le dernier cadeau sous la présidence de Sarkozy, puisqu'il y a un appel d'offres qui est lancé pour construire une nouvelle salle d'audience. L'appel d'offres en reste là. Et donc, premier cadeau pour les zones d'attente sous le quinquennat Hollande, c'est le début des travaux à l'été 2012. Et donc, à l'été 2012, on vient construire une salle d'audience directement accolée à la zone d'attente de Roissy. C'est-à-dire que les anciens locaux vont continuer à être utilisés. Et dans le prolongement, on a mis un petit cube qu'on a collé contre cette zone d'attente qui est rectangulaire. Donc, et pour vraiment imager, pour qu'on se rende compte à quel point c'est accolé et qu'on ne sort pas du tout de l'espace zone d'attente, qu'on est bien dedans, C'est que donc l'ANAFE a un bureau en zone d'attente de Roissy, qui est la chambre 38. Donc c'est une chambre qui a été transformée en bureau. De notre fenêtre, alors juste, hein, les fenêtres ne s'ouvrent pas, elles sont condamnées, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres, mais en tout cas il y a quand même une arrivée de lumière. Donc de notre fenêtre, on tombe directement sur le toit de cette nouvelle salle d'audience, donc de l'autre côté de la fenêtre, et dans notre bureau, si on creuse un trou, on tombe dans l'ancienne salle d'audience. Voilà, donc c'est vraiment pour dire à quel point ça a été collé. C'est important parce qu'en fait, c'est un point d'exigence qui a fait qu'il y a eu plusieurs délocalisations qui ont été fermées concernant les centres de rétention, parce que il y avait une exigence que les salles délocalisées, donc les annexes de tribunaux, doivent être à proximité du lieu d'enfermement et pas dedans. Or là, on est clairement en plein dedans, c'est le cas de le dire. Donc début des travaux 2012, en 2013, on annonce deux délocalisations à Roissy. La délocalisation du TGI de Meaux à proximité du centre de rétention du Ménil-Amelot et la délocalisation donc du TGI de Bobigny en zone d'attente de Roissy. 2013, donc, grosse mobilisation des associations, syndicats, mais également de pas mal de parlementaires. Alors, sur le principe contre la délocalisation Ménil-Amelot, et vu que ce serait une première pour la zone d'attente de Roissy, pour faire échouer l'ouverture de la zone d'attente de Roissy. Alors, juste pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette opposition contre le principe même d'une délocalisation, et pourquoi est-ce qu'on continue de se battre, et pas seulement l'ANAFE, mais qui est vraiment un phénomène qui rassemble, hein, cette lutte contre les délocalisations, c'est parce que finalement, en fait, en mettant en place cette délocalisation, donc en déplaçant le lieu de justice, et là, qui du coup devient un lieu de justice, entre guillemets, au sein de lieux de privation de liberté, on met en place une justice d'exception pour ceux que l'on désigne comme les indésirables. Il faut les cacher. Ce ne sont pas des justiciables comme les autres. On leur met en place une justice à part, loin du regard du public. On déplace donc cette justice dans un lieu de police, directement au pied des pistes. Donc, ce principe même, en fait, de considérer que les étrangers n'ont pas le droit à la justice comme les autres personnes sur le territoire français, est déjà très problématique au regard de ce que devrait être la justice en droit français, mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes parce que il y a vaguement un texte qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme, et qui prévoit vaguement qu'en fait que toute personne a le droit à un procès équitable. Et parmi les exigences du procès équitable, il y a le droit d'être audiencé dans un endroit public, donc la publicité des audiences. Publicité des audiences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe qui passe à côté, peut entrer dans la salle et assister au débat. Il y a un point important qui est l'apparence d'impartialité et d'indépendance de la justice. Or, en déplaçant un lieu de justice directement en zone d'attente, alors que c'est donc dans un lieu qui est gardé par la police aux frontières, dans un lieu où on va demander à la police, où c'est la police aux frontières qui va demander au juge des libertés et de la détention de prolonger le maintien, il y a un vrai risque en fait de ne plus avoir cette apparence d'indépendance et d'impartialité de la justice. Et ça a d'ailleurs été vérifié lors de précédentes expériences de délocalisation au niveau de centres de rétention, où très rapidement, en fait, les retenus parlaient du juge de la police. Et parce que c'est très compliqué après d'identifier qui est qui. Et l'autre point important sur l'exigence du droit à un procès équitable, c'est les droits de la défense. Donc en fait, on a le droit à un procès équitable qui finalement vole en éclats pour une justice d'exception. Donc finalement, c'est un projet qui est vraiment inutile et néfaste. Et il n'y a pas que les organisations, donc associations, syndicats, qui le disent, mais juste, il y a eu deux positions importantes en 2013. Donc, il y avait la Cour nationale consultative des droits de l'homme qui donc demandait au gouvernement de ne pas mettre en place cette délocalisation à Roissy car elle était de nature à porter de graves atteintes au principe du droit équitable. Et on a le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui, pareil, en 2013, s'exprimait et demandait au gouvernement de ne pas mettre en place cette délocalisation au vu des difficultés au regard du respect des droits de l'homme et du risque d'accréditer l'idée que les étrangers ne sont pas des justiciables ordinaires. 2013, du coup, Madame Taubira est à la justice. Je fais vite si je veux avoir le temps ensuite de parler de la frontière franco-italienne. Mais 2013, donc Madame Taubira est à la justice. La délocalisation au centre de rétention du Ménil-Amelot ouvre, mais on suspend celle pour Roissy, puisque Madame Taubira commande un rapport d'évaluation de ce projet de délocalisation en zone d'attente de Roissy. Le rapport sort en 2014. Il est plutôt négatif, puisque un des principaux arguments étaient de dire que la délocalisation, c'est super parce qu'en fait, on va pouvoir faire plein d'économies. Et ce rapport démontre qu'en fait, il n'y aura aucune économie qui sera faite, que finalement, c'est juste un simple transfert des charges entre ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, et avec un résultat final qui sera probablement très négatif pour le budget global de l'État. Donc, le projet de délocalisation est clairement mis sous le tapis. On n'en entend plus parler jusqu'à novembre dernier, donc novembre 2016. Donc, on a un nouveau ministre de la Justice. Donc, à l'époque, était Monsieur Urvoas. Et donc, sous Urvoas à la Justice, en novembre, le projet est relancé. Le ministère de la Justice demande au président du tribunal de grande instance de Bobigny de mettre en place cette délocalisation. Et cette délocalisation est prévue, a priori, pour septembre, avec des audiences tests qui vont avoir lieu ce mois-ci, à la fin du mois. Les dates ne sont pas encore connues, mais ça ne devrait pas tarder. Donc des audiences tests qui sont prévues, une ouverture qui est prévue pour septembre, malgré, là encore, mobilisation de l'ANAFE, mais aussi d'autres organisations, notamment toutes les organisations membres de l'Observatoire de l'enfermement et, des étrangers, donc de l'OE, qui ont interpellé en novembre dernier donc le ministère de la Justice sur cette délocalisation, interpellé également le ministère de l'Intérieur en avril dernier. Voilà, le gouvernement ne plie pas, veut absolument mettre en place cette justice d'exception. Et là, avec un autre argument, au-delà de l'argument budgétaire, qui est de dire que finalement, cette délocalisation, c'est bien, hein, parce qu'en fait, pour la dignité des personnes, c'est super top, parce qu'on finalement, on va pas les transporter comme ça dans les bouchons, dans un bus jusqu'au tribunal. Elles resteront pas pendant des heures au tribunal, et du coup, c'est quand même vachement mieux pour elles de rester directement en zone d'attente de Roissy. C'est un argument, la dignité des personnes, qui ne tient pas. Plusieurs raisons à ça, c'est que les millions qui ont été mis pour cette délocalisation, cette annexe en zone d'attente de Roissy, auraient été mis pour améliorer les conditions directement au TJ de Bobigny. La question ne se posait pas. Et cet argument ne peut à aucun moment donné contrebalancer le fait que c'est bien une justice d'exception qu'on met en place et qu'on veut éloigner les étrangers du regard et que c'est un autre moyen d'y parvenir. Et je pense que je vais m'arrêter là.
Alors, juste une petite question, une petite précision. Ouais. Je crois que c'est très difficile d'aller, en tant que public, assister à une audience. Enfin, tu as insisté là-dessus, mais
ouais.
J'ai pas très bien compris si c'était théoriquement possible, mais très difficile, ou si c'était théoriquement impossible pour un Pékin comme moi qui voudrait aller soutenir un copain qui...
Alors, en fait, un Pékin comme toi qui voudrait aller au TJ de Bobigny, du coup, rien de plus simple, terminus de la ligne 5, 3 minutes à pied, on y est. On nous demande pas à l'entrée de justifier d'une pièce d'identité, et effectivement, n'importe qui peut aller soutenir une personne qui est maintenue en zone d'attente, ne serait-ce que, par exemple, si c'est une personne qui a une situation sur le territoire français, un copain, même sans papier, a des documents, peut les amener et les donner à l'avocat de permanence. Là, Il faut donc prendre le RER, ensuite attendre un bus qui ne passe qu'une fois toutes les demi-heures, et encore, il ne faut pas se tromper de bus, il ne faut pas se tromper d'arrêt. Donc en fait, théoriquement, c'est possible, mais si on n'a pas planifié son truc à l'avance, on est largué parce que c'est très mal indiqué. C'est marqué nulle part quand on arrive à la gare de Roissy, comment est-ce qu'on fait pour aller à cette annexe. Qu'il y a des panneaux qui ont été mis dans l'aéroport, mais là encore, c'est pas non plus hyper évident. Et c'est surtout que, par exemple, si on tape l'adresse de la zone d'attente de Roissy dans un GPS, la plupart des GPS ne reconnaissent pas cette adresse. Donc c'est effectivement, c'est théoriquement possible, en pratique un petit peu compliqué et surtout beaucoup plus cher. Ça coûte à peu près 20 euros pour aller en transport en zone d'attente de Roissy. Et donc du coup, dans cette salle délocalisée, ça coûte quand même vachement moins cher un ticket de métro. En tout cas, quand on est parisien ou de la région parisienne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et juste pour montrer un petit peu les dérives que ça, auxquelles ça peut amener, c'est qu'avec la délocalisation au tribunal, au CRA du Ménil-Amelot, en fait, dès le début, il était question que ce ne soit pas la police aux frontières qui fasse l'accueil du tribunal, mais un service différent. Résultat des courses, quand l'annexe a ouvert il y a 3 ans, il n'y avait que la police et pas de service prévu spécifiquement. Donc, c'était prévu que la PAF fasse cet accueil temporairement. 3 ans après, c'est toujours la PAF qui fait l'accueil à l'annexe du TG de Meaux au CRA du Ménil-Amelot. Il y a une demande de présenter des papiers d'identité systématiques à toute personne qui veut entrer dans cette annexe, ce qui n'est pas du tout le cas dans un tribunal normal. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que ça veut dire aussi que ça peut limiter les soutiens. C'est-à-dire que même si théoriquement, on peut aller à cette annexe du tribunal, déjà, on ne sait pas à quelle heure, effectivement, la personne va passer. Donc la personne qui veut venir soutenir, potentiellement, elle va pouvoir y passer la journée. Mais c'est surtout que du coup, une personne qui serait en situation irrégulière ou pour X ou Y raison, le fait que ça se passe sur un lieu policier avec à l'accueil la police peut clairement rebuter et donc limiter aussi les soutiens aux personnes maintenues.
Là, il y a la possibilité d'apporter des documents. Alors, j'aurais plein de questions à te poser là-dessus, mais comme tu veux aussi nous parler d'un autre problème de frontière, on va tout de suite partir donc dans la. On fera une autre pause musicale après l'émission, hein. Mmh. Et on va tout de suite partir dans la Roya ou la NAFE et plein d'autres associations.
Alors, juste pour finir sur la délocalisation des audiences très rapidement, la mobilisation continue. Mmh. Donc déjà, quand les dates des audiences tests seront connues, il y aura un certain nombre d'observations qui seront faites directement donc par l'ANAFE et les autres organisations de l'OE notamment, qui seront faites. Il y a une mobilisation avec les avocats qui est prévue. Voilà, les choses sont pas encore clairement définies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parlera de délocalisation encore pendant un bout de temps. Et que si effectivement cette annexe ouvre en septembre, on en parlera encore à ce moment-là parce que nous, on ne lâchera rien.
Voilà, donc on se retrouve en septembre pour en parler, on se reverra avant, j'espère. Et puis il y avait hier, je crois aussi, une manifestation dans cette zone d'attente.
C'était la semaine dernière.